affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Au cours de notre émission de ce jour, nous allons effectuer un immense saut dans le temps. Nous allons en effet nous rendre aux sources de l'histoire humaine, à ce moment décisif qui a été, pour notre espèce, la maîtrise du feu. Nous allons découvrir comment nos lointains ancêtres, Homo erectus, sapiens et Néandertal, ont appris à allumer le feu, à le domestiquer, à l'entretenir. Nous allons aussi découvrir que cette faculté a été fondatrice d'une multitude de changements de toute nature dans la longue aventure humaine et que nous lui devons peut-être même la capacité que nous avons eue à nous adapter à un environnement hostile. Tous les anthropologues le savent, l'être humain était une des créatures les plus faibles de la création. Elle a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et le feu a sûrement joué un très grand rôle dans cette capacité à faire face aux éléments et aux autres espèces, parfois hostiles. Pour découvrir ce moment décisif et réellement aventureux, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Henri de Lemley. Henri de Lemley, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être parmi nous. Je me permets de vous présenter, même si nos auditeurs vous connaissent pour nombre d'entre eux déjà très bien, car vous êtes déjà venu dans notre studio à plusieurs reprises. Vous êtes monsieur directeur de l'Institut de paléontologie humaine de la Fondation Albert Ier, prince de Monaco. Vous avez auparavant dirigé le Muséum d'histoire naturelle, musée de l'homme. Vous êtes membre de deux académies, des sciences et l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et enfin, c'est la dernière raison de votre présence ici parmi nous, même si, en tant que membre des académies, vous êtes ici chez vous. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un ouvrage passionnant, La domestication du feu au temps paléolithique. Pour démarrer, je pense que j'ai dit qu'on allait faire un immense saut dans le temps. Peut-être faut-il le situer, car si on dit paléolithique, on voit à peu près que c'est très lointain et que ce sont dans les temps préhistoriques. Mais voilà, pouvez-vous nous en dire plus sur cet instant de l'aventure humaine et nous le situer de façon plus
claire. Oui, bien, c'est vrai que le feu a été extraordinaire. Ça a été un formidable moteur d'autonomisation. Et l'homme le connaît depuis longtemps, car l'homme n'a pas inventé le feu. Le feu, c'est naturel. La foudre allume des incendies de forêt, et l'homme a pu les voir. Un volcan peut aussi apporter le feu, allumer des incendies de forêt, et l'homme a pu les voir. Et il en avait peur. Parfois, il s'en est approché. Mais un jour, l'homme a été capable de l'allumer à son gré. Il a été capable d'organiser des foyers aménagés et d'allumer le feu par des techniques savantes, de stratégies pour l'allumer. Et ça a changé complètement la vie de l'homme. Et aujourd'hui, on peut dire que la domestication du feu a été à l'origine de la maîtrise de l'énergie et a permis à l'homme de multiplier son aventure culturelle, de développer son aventure culturelle qui, à partir de la domestication du feu, s'est considérablement accélérée. Mais le feu est une invention récente de l'histoire de l'humanité. C'est très récent, le feu. Si vous voulez, c'est très récent, la domestication du feu. Pas le feu. Le feu, ça a toujours existé. Je voulais, on peut comparer l'histoire de l'humanité à cette longue histoire, une année, mais même on va commencer avant. Depuis 7 millions d'années, il y a des primates qui marchent debout, comme Sahelanthropus tchadensis, qui date de 7 millions d'années, dont vous avez souvent parlé dans vos émissions, après Ardipithecus ramidus, depuis 4 millions d'années, 4 millions et demi d'années, les Australopithèques, depuis entre 4 millions et 1 million 500 000 ans, ces hominidés, ces primates qui marchaient debout, ne fabriquaient pas d'outils, n'avait pas la possibilité d'avoir un langage articulé, car si on en fait une empreinte de l'intérieur de leur crâne, on ne voit pas sur les reliefs du cerveau les aires de Broca, les aires de Wernicke, qui sont les centres du langage. Ils n'avaient pas de campement de base. Ils étaient essentiellement végétariens. L'usure de leurs dents permet qu'ils consommaient surtout des racines, des fruits, beaucoup de graminées. Bon, ils pouvaient être occasionnellement bipèdes, marcher debout. Mais, arboricoles, occasionnellement arboricoles, mais ils marchaient debout le plus souvent. Mais leur stationnarité bipède n'était pas parfaite. Pour avancer, ils étaient obligés d'andiner, si vous voulez. Ce qu'on peut voir, par exemple, sur la piste de l'Étoulil, qui date de 3 700 000 ans, en Tanzanie, à l'ouest du lac Kilimandjaro, du pic du volcan Kilimandjaro, où on voit qu'ils marchaient en croisant les jambes, ils avançaient en mettant le pied droit à gauche du pied gauche, puis le pied gauche à droite du pied droit, comme les mannequins. Mais c'était pour se tenir bien debout, ouais, pour arriver à se tenir. Et occasionnellement, ils étaient arboricoles. Ce sont marcher debout, c'est une condition nécessaire pour être un homme, mais pas forcément une condition suffisante. Et nous pouvons les appeler des préhumains. Mais les hommes véritables, ceux qui ont droit au titre d'homme, homo, c'est ce qu'on appelle souvent early homo, où ce sont les homo habilis, les homo rudolfensis, apparaissent vers 2,5 millions d'années, 2,6 millions ans. Et pour la première fois, ces hominidés qui marchent debout sont capables de fabriquer des outils. Ils ont toutes les conditions anatomiques pour avoir un langage articulé. Et pourquoi s'en seraient-ils privés ? Bon, certes, nous n'avons pas trouvé de paroles fossiles au cours de nos fouilles, mais nous pouvons dire qu'ils devaient pouvoir parler. Et d'autre part, la fabrication de certains outils, comme les bolas, les boules polydriques, permet de dire qu'ils ne sont pas des objets fonctionnels. Permet déjà qu'ils avaient une pensée symbolique. Ils fabriquaient des boules sphériques, dont tous les points sont à égale distance du centre. Et je ne pense pas que c'était pour jouer à la pétanque qu'ils fabriquaient ces boules. C'était certainement avec un but fonctionnel, une idée symbolique et non fonctionnelle. Alors ça, c'est 2,5 millions d'années. Alors si vous voulez, nous allons comparer l'histoire de l'homme à une année. Eh bien, nous allons dire que 2,5 millions d'années, par convention, ça va être le 1er janvier à 0 h. Mais il faut attendre à peu près la moitié de l'histoire, 1,5 million d'années, vous voyez, pour que le 15 juin, par convention, ils quittent le berceau africain de l'humanité et qu'on les retrouve sur les rivages méridionaux de l'Europe. Puis il faut attendre, on peut dire, 400 000 ans, par convention, ça va être le 15 novembre, juste avant l'hiver, il était temps, pour que l'homme domestique le feu. Si je vous dis le 15 novembre, vous direz c'est près de la fin de l'année. Eh bien, la domestication, c'est près de la fin de son histoire. Puis ça s'est accéléré. On peut dire que c'est vers le 15 décembre, et juste avant Noël, que l'homme, il y a 100 000 ans, pour la première fois, creuse une fosse pour déposer le défunt. L'homme s'interroge sur sa signification, sur sa place dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie. Il refuse la mort, il veut poursuivre sa route dans l'au-delà. 100 000 ans. C'est le 15 décembre, juste avant. C'est l'émergence de la pensée religieuse. Et puis, ce n'est que le 28 décembre, à 10 h du matin, vous voyez, à peu près il y a 10 000 ans à peine, qu'il devient agriculteur et pasteur. Et puis, ce n'est que le 23 décembre, à 59 minutes et 30 secondes, qu'il a mis les pieds sur la Lune. Oui, c'est une histoire extraordinaire, mais vous voyez que le feu est une invention relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Mais 400 000 ans, c'est court, mais pour nous, c'est beaucoup, c'est très loin.
Et qui provoque une accélération incroyable.
Et puisque... c'est une action extraordinaire. Alors, on peut dire qu'au début, on connaît quelques sites préhistoriques, par exemple, en Afrique du Sud, comme le site de Swartkrans, ou comme le site de Vandenberg, où on a trouvé des os brûlés. Mais c'est des hommes qui ont su s'approprier du feu naturel et qu'ils ont entretenu pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'éteigne et puis ils ne savaient pas le rallumer. Et au cours du temps, entre 2,5 millions d'années et 400 000 ans, des hommes ont souvent, parfois, utilisé du feu qu'ils avaient volé dans la nature et qu'ils entretenaient plus ou moins bien jusqu'à ce qu'il s'éteigne et qu'il devenait sans feu. Moi, je suis devenu préhistorien d'ailleurs, parce que à l'âge de 9 ans et 10 mois, Marseille avait été bombardée le 27 mai 1944, et on avait fermé le collège. Et ma maman, pour que je reste tranquille à la maison, m'avait acheté un livre. C'était un livre de Rossini aîné qui s'appelait « La guerre du feu ». J'ai lu ce livre avec passion. J'ai découvert comment les hommes préhistoriques avaient domestiqué le feu. Et j'ai décidé, à l'âge de 9 ans et 10 mois, d'être préhistorien. Et vous voyez, c'est un rêve de jeune, de jeune enfant, qui a été réalisé dans l'âge mûr. Et grâce à cette lueur que j'ai eue en lisant ce livre, j'ai été en vacances toute ma vie et je suis toujours en vacances, passionné par la reconstitution de l'histoire de l'homme, de l'histoire de ses comportements de subsistance et de son mode de vie.
Alors justement, puisque vous nous disiez que ce livre « La guerre du feu », donc la question du feu dans l'histoire de l'humanité était fondatrice de votre carrière, vous y avez consacré de nombreuses recherches, y compris sur le terrain. Comment a-t-on procédé pour faire, c'est toujours un peu fascinant, c'est-à-dire comment peut-on reconstituer à une si grande distance, même si j'ai compris que c'était pas si loin dans l'histoire de l'humanité, une histoire telle que celle de la domestication du feu. Comment procède-t-on ?
Oui, en effet, j'ai fait des fouilles dans beaucoup de sites, j'ai travaillé dans le monde entier. J'ai fait des fouilles dans le sud de la France, en particulier dans le sud-est de la France. J'ai fait des fouilles en Éthiopie, j'ai fait des fouilles en Chine, j'ai fait des fouilles en Corée, j'ai fait des fouilles en Espagne, en Italie, en Turquie, en Grèce, en Géorgie. Et j'ai cherché des sites, surtout des sites très anciens, pour comprendre le comportement et le mode de vie. Par exemple, j'ai fait des fouilles dans un site qui est situé dans l'extrême sud de l'Éthiopie, à Fejez, à peu près à 10 km au nord de la frontière du Kenya. Et là, nous avons mis au jour des sols d'occupation préhistoriques qui datent de 2 millions d'années, qui était occupé par des homo habilis, c'est-à-dire les tout premiers hommes fabricants d'outils, les premiers hommes véritables. Et là, on a pu mettre en évidence leur comportement, leur habitat, leur mode de vie. Ils s'installaient au pied d'une petite dune de sable, pas très loin d'une rivière. Et ils étaient les premiers chasseurs, et ils étaient les premiers tailleurs d'outils. Ils allaient récupérer des galets dans une rivière proche pour fabriquer des outils avec une stratégie de débitage élaborée. Ils allaient récupérer des carcasses de grands herbivores abandonnés par de grands carnivores pour consommer de la viande, car ils n'étaient pas chasseurs, ils étaient charognards. Et c'est avec ces outils qu'ils récupéraient. Mais sur ce site, parmi les milliers d'ossements que nous avons mis au jour, pas un seul os brûlé, pas de charbon de bois, pas de cendre. Manifestement, ces homo habilis, qui datent d'un peu plus de 2 millions d'années, n'avaient pas domestiqué le feu. Ils mangeaient, c'était des charognards qui consommaient la viande qu'ils avaient récupérée, crue. Et puis, vers 1 600 000 ans, les hommes deviennent chasseurs. Et nous avons étudié beaucoup de sites en Afrique, comme en Europe, de ces premiers chasseurs. Et à la Condorgo-Totavel, nous avons un site extraordinaire, dont là j'ai compris entre 700 000 et 100 000 ans, qui a été occupé par des Homo erectus européens évolués, que nous appelons aujourd'hui Homo erectus totavelensis. Alors, ce site contient un remplissage de 16 mètres d'épaisseur. Et dans les dépôts, dont là j'ai compris entre 700 000 et 400 000 ans, on peut les dater par plusieurs méthodes, par la méthode de l'uranium-thorium, par la méthode de la résonance électronique de spin, par d'autres méthodes. Et bien sûr, il faut faire beaucoup de datations. D'ailleurs, nous avons fait sur le site de la Corée, avec la collaboration de nombreux laboratoires à travers le monde, plus de 700 datations. C'est-à-dire qu'on en a fait plus que ce que la NASA en a fait sur les roches de la Lune. Et nous savons que dans les dépôts, dont là j'ai compris entre 700 000 et 400 000 ans, on a des milliers d'ossements, il n'y a pas un seul os brûlé, pas de charbon de bois, pas de pierre éclatée par le feu, pas de cendre. Manifestement, quand vous vivez, que vous avez un feu, si vous sucez un os, vous le jetez dans le feu. Hein, ça vous est arrivé certainement, c'est arrivé à tous vos auditeurs.
De côté d'un feu, oui.
Eh bien, alors seulement, c'est brûlé. Et il n'y a pas un seul. Manifestement, à Totaben, à Condargo à Totaben, entre 700 000 ans et 400 000 ans, l'homme n'avait pas domestiqué le feu. Par contre, dans les couches les plus hautes, les plus élevées, au-dessus d'un plancher stalagmitique qui est daté par plusieurs méthodes, uranium, thorium, résonance électronique de spin, de 400 000 ans. Dans ces dépôts supérieurs, entre 400 000 et 100 000 ans, l'homme avait domestiqué le feu parce que dans tous les niveaux, on trouve des obolés, on trouve des charbons de bois, parfois des pierres éclatées par le feu. L'homme avait domestiqué le feu, il savait l'utiliser. Et même dans les couches les plus hautes, dont l'âge est entre 200 000 et 100 000 ans, les obolés sont en quantité et les cendres sont très abondantes. L'homme, l'univers humain, était accompagné par le feu. Vous voyez, le feu était devenu omniprésent dans l'univers humain. Et puis, nous avons essayé, grâce à des fouilles que nous avons organisées à Teramata, et j'en parle beaucoup dans ce livre, la domestication du feu au temps paléolithique, édité chez Odile Jacob. Nous avons étudié un site qui est situé à Nice, sur une plage de Nice, à Teramata. Là, il y a des peuples acheuliens, qui ont été datés de 400 000 et de 380 000 ans, avaient installé, à intervalles plus ou moins réguliers, des campements sur une plage, au pied d'une falaise, dans une petite crique.
Près d'une source.
Bien abritée. À côté idyllique. D'une source et d'un grand bloc rocheux, et ce qui devait les attirer. Et ils sont revenus régulièrement, car les hommes connaissaient parfaitement leur environnement. Ils connaissaient les grottes, les abris sous roches, les sources, les lieux où on pouvait chasser, les gîtes de matières premières où on pouvait aller chercher des roches pour fabriquer leurs outils. Et le site Teramata était bien connu. Si bien qu'ils y sont revenus au moins à 26 reprises. Parce que certaines sols d'occupation peuvent être des palimpsestes et peuvent correspondre à plusieurs sols qu'on n'a pas pu séparer parce qu'ils ne sont pas intercalés par des couches. Il n'y a pas d'intercalation de couches stériles. Et donc on a pu mettre en évidence au moins 26 occupations. Et d'après la répartition des objets au sol, la répartition des ossements, qui sont des déchets culinaires, des ossements d'éléphants, de cerfs, de rhinocéros, d'aurochs. Et après la répartition au sol des outils taillés, on peut dire que ces hommes avaient installé des cabanes, des huttes ovalaires d'à peu près 6 à 10 mètres de long, de 4 à 6 mètres de largeur, de haute valeur, bien circoncié. Parfois, on peut même mettre en évidence, tout autour de ces aires de contention, de grande concentration d'objets, des lignes de pierre qui montraient qu'ils devaient bloquer les parois du. Alors, le plan de ces huttes au sol est parfait et bien connu. Mais sur la reconstitution en élévation est une hypothèse. Est-ce qu'elle était en bois, est-ce qu'elle était en peau? Je ne peux pas vous répondre, on peut faire des hypothèses. Mais la disposition, la forme de la hutte, on peut même mettre en évidence où étaient les entrées, parce qu'on voit en dehors de cette surface ovale la partie où les objets sortent et qu'il devait y avoir des passages réguliers. Donc dans ces huttes, on a des foyers qui ont été aménagés au centre de la hutte. Et dans tous les niveaux. C'est-à-dire que les hommes savaient allumer le feu à leur gré. Ils arrivaient sur le site, ils ne restaient pas longtemps, c'est des campements de très courte durée, quelques jours, quelques semaines.
Une saison de chasse, quoi, même pas une saison, une partie de chasse.
Une partie de chasse ou de charognage, parce qu'ils chassaient, ils étaient capables de chasser l'éléphant, bien sûr, mais alors, quand ils chassaient l'éléphant, ils chassaient surtout des éléphantaux. On a beaucoup de dents de lait d'éléphant, c'est plus facile à abattre un éléphantaux. Ils chassaient aussi le cerf. C'est les deux animaux les plus chassés, l'éléphant et le cerf, mais occasionnellement le roc, le rhinocéros, le tar, une chèvre qui vit sur les pentes escarpées du Mont Boron. Oui, donc, et le sanglier, dans des forêts proches. Et c'était donc des bons chasseurs. Mais aussi, ils ont charogné des éléphants adultes qui avaient dû s'embourber dans des marécages proches, d'ailleurs, à quelques centaines de mètres de Teramata. Ils étaient trouvés des marnes dans lesquels ont été trouvés des squelettes de gros d'éléphants adultes. D'ailleurs, à cette époque-là, vers 400 000 ans, on connaît beaucoup de sites en Italie, comme la Polledra de Cerecanibio, dans le Latium, ou en Espagne, comme Aridos, Ambrona, etc., où on a aussi des carcasses d'éléphants qui ont été charognées. Et c'était une époque où, justement, les hommes s'étaient un peu spécialisés dans le charognage auprès d'éléphants bourbés dans des marécages. Et alors, ces hommes, allumaient, après avoir construit leur cabane, étaient capables d'allumer en arrivant un foyer. Et c'est donc la preuve absolue qu'ils avaient acquis la maîtrise de l'allumage du feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à l'origine de formidables aventures culturelles de l'homme, d'inventions culturelles extraordinaires. Et alors, on sait même à Termatin, par des analyses compliquées, comment ils allumaient le feu. Par exemple, on a prélevé dans les fosses creusées dans la dune des blocs de cendres qu'on a pris dans des blocs de plâtre, puis on l'a mis induré dans de la résine, puis on fait des lames minces, on taille des lames minces et on examine ce qu'il y a dans ce sable. Alors, si on fait des lames minces de la dune dans laquelle a été creusé le foyer, c'est du sable homogène. Alors que si on fait des lames minces dans les dépôts qui sont dans les cendres des foyers, on a d'abord des sables mélangés à des cendres, à des bouts de charbon de bois. Et aussi, et ça c'est une surprise, à des fragments de coquilles marines fracturés, brisés et rubéfiés par le feu. Alors on a déterminé ces coquilles, ce sont surtout des lamellibranches, des coquilles de moules, des fragments, des minuscules fragments de coquilles de moules, mais aussi de grilles de loturie, d'un invertébré qui sert à filtrer l'eau qui est injectée dans le tube. Et l'association de ces faunes marines nous permet de dire que c'était des coquilles qui proviennent d'une vasière côtière. Elles ne se sont pas formées sur place, bien sûr. C'est les hommes allés chercher des herbes marines dans une vasière côtière proche pour entretenir leur feu. Alors, ils utilisaient quelques brindilles de bois, parce qu'on a du charbon de bois, mais aussi des coquilles marines qui devaient être fixées sur les feuilles de ces herbes marines. Alors, les feuilles ont disparu. Quoi qu'on a trouvé, certains fragments de végétaux qui ont été brûlés et qui sont transformés en carbonate et qu'on arrive presque à déterminer. Ouais. Et donc, on peut voir comment ils allumaient le feu. Et ils se sont servis du feu pour toutes sortes de choses. D'abord, pour cuire les aliments. C'est pas parce qu'un os a brûlé qu'on peut dire qu'il a été cuit, mais c'est quand on a fini de le sucer qu'on le jette dans le feu. Mais ils se sont servis du feu pour faire cuire des aliments. Mais ils s'en sont servis pour autre chose. Nous avons trouvé dans la dune, c'est-à-dire du sable apporté par le vent, 75 grains de colorant, si vous voulez, d'ocre. Mais il y a deux types d'ocre. Nous avons trouvé de l'ocre jaune, ce qu'on peut appeler de la goethite, et nous avons trouvé de l'ocre jaune, qui est de l'ocre rouge, qui est de l'hématite. Alors on a recherché d'où venaient ces ouïes, ils ne sont pas portés par le vent, c'est des petits grains, pas très grands, de 2-3 cm de diamètre. Pas très grand. On a cherché d'où ils venaient. Or, c'est pas le vent qui a pu les apporter. Or, l'homme est allé les chercher. Alors, l'hématite, il y en a beaucoup dans la vallée du Paillon, qui est un fleuve côtier à Nice, qui se jetait à l'époque au pied de Termatin. Et si on remonte le Paillon, dans les calcaires jurassiques de la vallée du Paillon, on peut trouver des grains de grottite. Donc, on peut penser que cette grottite venait du Paillon. Et puis l'hématite, d'où elle vient, il n'y en a pas dans la région de Nice. Il n'y a pas dans la... Alors on peut aller près d'Apte, ce qu'on appelle à Roussillon, là où il y a des ocres, il y a de l'hématite. On peut aller aussi en Italie. Ils pouvaient aller la chercher très loin. Mais on l'a analysé. Et on l'a analysé, ces grains d'hématite, ces granules d'hématite. On les a analysés par spectrométrie infrarouge, par diffractométrie Euro 6. Et on s'est aperçu que ce n'était pas de l'hématite naturelle, mais que c'est de l'hématite artificielle qui a été produite en faisant chauffer de la goethite jaune. Et en la faisant chauffer, elle perd des molécules d'eau et ça, elle devient rouge. C'est une hématite artificielle. D'ailleurs, à une époque beaucoup plus récente, des hommes du Paléolithique supérieur qui ont fait des peintures dans les grottes connaissaient aussi cette technique pour obtenir de l'ocre rouge. Donc on peut dire que c'était des ocres amassées par l'homme et que les grains de gothite étaient fabriqués artificiellement. D'autre part, on a examiné ces grains d'ocre au microscope électronique à balayage, au Centre européen de recherche préhistorique d'Avel. On s'est aperçu que les bords de ces gothites, leur surface, avaient des endroits très lustrés, polis, usés, ce qui montre que ces grains de gothite, que ce soit de la gothite jaune, de l'ocre jaune de la gothite, ou que ce soit de l'ocre rouge de l'hématite, avaient frotté sur des substances douces. Donc elles avaient servi à colorer. Ce sont les plus anciens crayons de couleur de l'histoire de l'humanité. Et comme ça a servi sur des substances douces, on peut se penser, c'est une hypothèse bien sûr, qu'ils se coloraient la peau. Hein, l'homme se colore la peau. D'ailleurs, si vous promenez dans la rue de Paris, vous voyez de plus en plus de gens tatoués.
Et j'allais dire, on revient au même type de considération aujourd'hui.
Voilà, c'est pour s'individualiser, pour se faire remarquer, pour se montrer. Ouais.
Et vous dites aussi pour se distinguer, s'extraire de la nature.
Voilà, s'extraire de la nature, ouais, c'est ça, oui, pour s'individualiser, pour se signaler. Hein. Alors, le feu, bien sûr, qui a été domestiqué à 100 000 ans, il a été domestiqué à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète. On connaît des feux de 400 000 ans en Chine, à Chougoutienne. Le père Thierry de Chardin, d'ailleurs, avait participé au feu de Chine. Et actuellement, notre ami Gao Tsing, qui est le directeur du laboratoire de préhistoire de l'Université de Pékin, l'Académica Sinica, a repris des fouilles à Chougoutienne. Il a remis en évidence ces niveaux avec des foyers, des eaux brûlées, etc., des cendres, etc. Mais on connaît aussi des foyers en Hongrie. À Vertészló, c'est à 60 km à l'ouest de Budapest, qui date aussi d'environ de la même époque, d'environ 400 000 ans, où les hommes ont fait des foyers. D'ailleurs, ils faisaient des foyers avec des matières animales, surtout de la graisse, etc., qui date de 400 000 ans. On connaît des foyers aussi, outre ceux de Terramatin en France, par exemple, dans le Finistère, à Ménez-Régan, au plus de la pointe du Raz, au sud de la pointe du Raz. Des foyers dans un niveau sur une plage marine comme à Terramatin qui date de 400 000 ans. On en connaît en Angleterre, dans le Suffolk, dans le site de Bishopsgate, où le professeur Golette a mis en évidence des foyers qui datent d'environ 400 000 ans. Et je vous ai dit, c'est à partir de 400 000 ans, à Condoragua-Tautavel, qu'on peut bien mettre en évidence le début de l'utilisation du feu. Donc c'était à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète que l'homme a domestiqué le feu. Et le feu lui a permis, c'est une chose d'abord, le feu permet d'allonger le jour au dépend de la nuit et de s'éclairer le soir et de permettre de longues veillées
oui, autour du feu. D'ailleurs, j'ai découvert en parcourant votre ouvrage que non seulement il était capable de faire du feu, mais qu'il y avait même des techniques plus élaborées, comme des lampes portatives.
Ce qui
démontre que c'est vraiment pour s'éclairer.
Oui, bien sûr. Oui,
pouvez-vous nous expliquer ça?
Ça a permis à l'homme, à l'époque moderne, c'est-à-dire vers à partir de 35 000 ans, de pénétrer dans les grottes, et où, qu'il avait fait des lieux sacrés, en quelque sorte, pour faire ces magnifiques parois peintes. Et dans ces grottes, comme dans la grotte de Lascaux, on a trouvé une belle lampe avec un godet rond, mais on a trouvé aussi de nombreuses pierres un peu creuses, dans lesquelles il y a encore des traces de matière organique qui montrent.
C'est-à-dire qu'il faisait brûler de la graisse ou de l'huile déjà.
Si l'homme n'avait pas domestiqué le feu, oui, lui, la graisse animale, n'avait pas domestiqué, il n'avait pas su l'allumer à son gré, il n'aurait pas pu pénétrer dans les grottes. Grâce au feu, il est devenu le premier spéléologue. Et d'ailleurs, dans une grotte à Bruniquel, a été mis en évidence dans des dépôts qui datent d'un peu plus de 200 000 ans, des stalagmites cassées par l'homme qui avaient été disposées en cercle très loin de l'entrée de la grotte. Les hommes pénétrant dans les grottes grâce à la domestication du feu. Mais le feu aussi a permis à l'homme de conquérir de nouveaux territoires. Avant la domestication du feu, il ne pouvait pas habiter dans les zones tempérées froides de la planète. C'est ainsi qu'il ne montait vers le nord de l'Europe que pendant les périodes chaudes, ce qu'on appelle les périodes interglaciaires. Si on connaît en Belgique, le site près de Splinode, le site de Belle Roche, où vers 600 000 ans, des hommes ont occupé nord de la Belgique. Mais pendant les périodes froides, ils se repliaient vers le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, dans le sud de la France. Hein. Et puis, ils revenaient dans le nord quand il faisait froid. Et tout au long du Quaternaire, on a mis en évidence qu'il y a des cycles climatiques qui durent 100 000 ans. Pendant 80 000 ans, il fait froid, beaucoup plus froid, ce sont les périodes glaciaires. Et les hommes n'occupaient pas les zones septentrionales en Europe. Et pendant les périodes interglaciaires, qui dure que 20 000 ans, entre deux grandes périodes froides, les hommes pouvaient remonter beaucoup plus haut vers le nord. Mais avec la domestication du feu, l'homme a pu occuper en permanence les zones tempérées froides de la planète et même s'installer sur les zones arctiques, sur le sol gelé permanent.
Mais c'est-à-dire que lorsque l'homme découvre le feu, on ne découvre pas le feu, on découvre le moyen de le domestiquer. On sent qu'au début, ce que je ressens en comprenant en vous lisant, c'est que dans un premier temps, ce sont des considérations extrêmement prosaïques, fonctionnelles. Il s'agit de cuire les aliments pour les rendre plus digestes, j'imagine, puisqu'ils étaient charognards peut-être aussi pour les rendre propres à la consommation. Se défendre contre des animaux sauvages, le feu ça effraie les animaux. S'éclairer.
Oui, bien sûr.
Et puis, dans un second temps, il y a un certain nombre, j'imagine, de fonctions non prévues au départ qui se font jour, qui sont exploitées.
Bien sûr, mais d'abord, oui, c'est vrai que le feu lui a permis de se défendre contre les animaux sauvages. Si on allume un feu à l'entrée de la côte de l'Arago, à partir de 400 000 ans, on peut dormir tranquille au fond de la grotte. Une hyène ou une panthère ne viendra pas vous déranger pendant la nuit. On peut améliorer la fabrication des outils. C'est ainsi que dans le nord de l'Europe, dans le site de Schöningen, notre collègue, le professeur Nicolas Connard, qui est professeur à l'université de Tübingen, fait des fouilles. Et il a trouvé dans des dépôts de schiste, ou dans le schiste, des dépôts de lignite plutôt. Dans les lignites, le bois se conserve. Et il a trouvé, par exemple, une lance, il en a trouvé plusieurs, mais une lance de 2,20 m de long, dont la pointe est durcie au feu. Hein, c'est formidable l'invention du feu. Le feu aussi a permis, vous l'avez dit, d'améliorer la nourriture. Une viande cuite est plus succulente qu'une viande crue. Moi, personnellement, je suis un cas, j'aime bien les steaks tartare. Je ne sais pas vous.
Mais moi aussi.
Vous aussi. Alors,
mais j'aime bien le poêler un petit coup aussi.
Voilà. Et puis, ça a permis aussi d'améliorer les aliments cuits, comme les végétaux, comme la viande, sont plus digestifs quand ils sont cuits. Donc le système digestif s'est amélioré. Et le feu, surtout, est un facteur de convivialité.
Oui, mais, d'ailleurs, puisqu'on parle de convivialité, c'est lié. J'ai découvert avec stupéfaction qu'ils s'en servaient aussi pour fumer la viande et la conserver.
Ah oui.
Et même en améliorer les qualités gustatives, puisque si j'ai bien compris, ils la fumaient aussi avec des épices, des herbes et des, des condiments. Donc ils étaient déjà des gastronomes.
Le feu est formidable, mais c'est surtout le plus important. C'est un facteur de qualité. Parce que le soir, les longues veillées autour du feu, qu'est-ce qu'on se raconte? Vous savez, les hommes étaient un matin, dans la journée, ils chassaient le rhinocéros, l'éléphant, le cerf. Puis le soir, autour de leur foyer, ils allumaient le feu. Ils étaient capables d'allumer. Et puis, il y a d'abord une organisation sociale. Il y a celui qui va chercher le bois, celui qui entretient le feu, celui qui fait cuire la viande. Donc, une organisation sociale. Et puis, on se raconte des histoires. Et vous êtes chasseur, peut-être?
À mes heures perdues.
À vos heures perdues. Mais après,
chasse l'escargot, la palourde.
À la fin d'une chasse, on fait une bouffe. On se raconte des histoires autour d'un repas. Et au cours du temps, on se raconte des histoires de chasse. Et le chasseur qui avait abattu un éléphant, eh bien, il devenait un grand héros. Et les ancêtres qui avaient abattu un éléphant étaient encore un plus grand héros. Et l'éléphant qu'il avait abattu devenait gros comme une montagne. Et c'était un demi-dieu. C'est ainsi que sont nés, que se renforcent les structures sociales, que sont nés les groupes qui appartiennent à une même identité culturelle. Et la naissance des identités culturelles apparaît avec la domestication du feu il y a 400 000 ans.
Vous parlez aussi d'une accélération due au fait que les journées deviennent plus longues et donc on a plus de temps pour rester éveillé, réfléchir, échanger,
pour parler, pour monter, pour s'entretenir, pour renforcer le groupe.
C'est-à-dire que dès lors que le feu permet de ne plus se concentrer uniquement sur la subsistance déjà.
C'est autour du feu est née la pensée mythique et les récits extraordinaires, la pensée mythique et le développement de la pensée symbolique. Et toujours, depuis le début, depuis l'origine, on a une émergence de la pensée symbolique qui est allée en s'accélérant, en se développant. Et je pense que l'homme a toujours cherché quelque chose qui est au-delà du concret, au-delà de ce qu'il voit, quelque chose qui le dépasse. C'est la recherche de la transcendance.
Alors, est-ce que la capacité que donne le feu de s'extraire des contingences, justement, de la nature n'est pas aussi un accélérateur d'inspiration à se penser au-dessus ou central dans la création?
Oui, l'homme a eu d'autres préoccupations que les préoccupations de subsistance immédiate, des préoccupations qui dépassent le contingent.
En début d'émission, j'ai cru comprendre que vous parliez des premiers rites funéraires ou des premières tombes en tout cas comme étant concomitantes ou presque avec la domestication du feu?
Ah non, c'est beaucoup plus récent.
C'est plus récent.
C'est beaucoup plus récent. La domestication de feu, c'est 400 000 ans. Et on a, pour l'instant, on sait qu'ils avaient certainement une pensée symbolique qui n'était pas très développée, mais qui était en cours de développement. Et par exemple, dans le coin de Ragoa-Totavel, nous avons jusqu'à présent mis en évidence à Totavel 149 restes humains. Qui correspondent à des Homo erectus européens évolués ou Homo erectus totavensis. Mais il n'y a pas de sépulture. Ce sont des ossements qui sont brisés et fracturés. Et souvent, on met en évidence des stries de découpage sur ces ossements ou des stries de raclage. Donc, c'est des ossements qui ont été consommés, comme les mêmes types de stries de raclage ou de découpe que sur les ossements d'animaux. Et ces ossements humains sont toujours beaucoup plus abondants, sont toujours présents là où il y a beaucoup d'ossements d'animaux. Donc c'est lié. Mais il y a une grande différence. Pour les ossements d'animaux, par exemple de chevaux, de mouflons, de rennes ou de cerfs, selon les époques, on a tous les ossements du squelette. On a des crânes, des mandibules, mais on a beaucoup plus de côtes, quand on a qu'un crâne et beaucoup de côtes, beaucoup de vertèbres, beaucoup d'os du carpe, du tarse, de phalanges, de phalangines, de phalangettes. Alors que pour l'homme, on n'a que des crânes et des mandibules, et puis quelques os longs, comme des fémurs ou des humérus, qui ont beaucoup de chair. Mais il n'y a pas une seule côte, pas une seule vertèbre. Pas un seul os du carpe et pas un seul du tarse. Juste un seul métapode, alors que nous avons quand même 20 métapodes entre les deux mains et les deux pieds. Pas de phalange, sauf une phalangette. Manifestement, pour consommer de la viande, les hommes ont choisi des ossements d'animaux. Et que pour l'homme, c'est des parties spéciales du squelette, la tête, la mandibule, et quelques os longs qui ont beaucoup de chair. Et on peut penser que ça correspond à un cannibalisme rituel pour se procurer la force physique ou psychique d'un défunt. Et ainsi, on a trouvé, par exemple, à Condorgotel, 5 mandibules. Dans ces 5 mandibules, il y en a 3 de femmes et 2 d'hommes. Et c'était pour, sans doute, récupérer la langue. D'ailleurs, sur une des mandibules d'une jeune fille, une charmante jeune fille de 17 ans, vous voyez, parce que la troisième molaire n'est pas encore arrivée sur la cage dentaire, on a des stries de découpe autour des apophysgénies, c'est-à-dire les crêtes d'insertion de l'os, qui permettent de fixer le muscle de la langue. Si vous voulez organiser un jour, chez vous, si vous avez des amis, un repas préhistorique, pour demander à votre femme de préparer un plat de langue de jeune fille que vous ferez pas, que vous servirez non cuite, parce qu'ils n'avaient pas encore domestiqué le feu il y a 450 000 ans.
Puisqu'on en est aux mandibules, je ne suis pas sûr d'organiser ce repas à brève échéance. Mais bon, si les choses tournent mal, on ne sait pas.
Mais là, vous avez une collaboratrice d'Odile Jacob qui veut prêter sa langue.
En revanche, puisqu'on en est aux mandibules, j'ai compris aussi que le fait que la viande soit cuite a provoqué des modifications morphologiques.
Ah oui, bien sûr, parce que
notamment de la face.
Oui, bien sûr. Bien sûr, quand on mange de la viande cuite, on a moins besoin de muscles forts pour assurer la mastication. Donc, à partir du moment où on mange de la viande cuite, parce qu'on a domestiqué le feu, les muscles ont moins besoin d'être aussi fort, aussi puissant pour assurer la mastication. Et donc, l'étau qui en serre le crâne s'est détaché et le crâne a pu augmenter de volume, ce qui est une... Et le feu, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quand même important, a permis d'allonger l'espérance de vie. Parce que avant la domestication du feu, à Totavel par exemple, l'espérance de vie ne dépasse pas 20 ans. Voyez, bon, on a trouvé, mais c'est un cas, une mandibule d'une très vieille dame, très 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 âgée, qui est une vénérable aïeule. Vous savez à quel âge elle est morte? Un âge canonique. Elle est morte, mais c'est un cas, à 40 ans. Ouais. En général, on mourrait avant 20 ans. Mais à partir de la domestication du feu, l'espérance de vie va s'allonger. Parce qu'en faisant cuire la viande, on fait reculer les parasitoses.
Et donc probablement l'expérience et les capacités à la transmettre.
Ah oui, bien sûr.
Alors, sur ces changements physiologiques, ça signifie donc que la domestication du feu permet un développement de l'intelligence autant ou même peut-être plus que l'intelligence a permis la domestication du feu, c'est-à-dire que...
C'est lié, oui, tout est dans le circuit, oui.
Initialement, on se dit plutôt, tiens, l'homme est suffisamment intelligent désormais...
Il y a toujours eu des hommes intelligents, il y a toujours plus intelligents que d'autres, et vous savez, la domestication du feu est une première chance, mais l'invention de la parure, il y a 30 000 ans, 32 000 ans, 35 000 ans, c'est aussi une invention formidable. Parmi vos auditrices, il y en a beaucoup qui doivent avoir des colliers en ce moment. À quoi ça leur sert ? À rien, c'est purement symbolique. Et l'explosion de la pensée symbolique à la suite de la domestication du feu, avec le développement des lobes frontaux du cerveau, avec le crâne qui se développe, a permis l'invention de la parure. Prend des dents de renard, par exemple, ou des coquilles marines qu'on perfore pour faire un collier, pour faire un bracelet, hein, pour faire un jambelé, pour coudre sur une coiffe funéraire, comme la Dame du Cabillon, qui a été inhumée il y a 24 000 ans, à l'âge de 37 ans, dans une grotte de Grimaldi, près de la frontière franco-italienne.
Vous savez, lorsque vous parlez de ces lointains ancêtres, ils nous paraissent tout d'un coup extrêmement proches. On en parle, plus ils nous semblent extrêmement proches, moins ils sont exotiques finalement.
On aimerait bien les voir vivre, mais on ne les voit pas vivre. Mais grâce à des analyses multidisciplinaires, effectuées dans de nombreux laboratoires variés, avec des spécialisations très précises, aujourd'hui nous pouvons pénétrer de mieux en mieux dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques. Le travail du préhistorien, c'est un travail de détective. Nous sommes les détectives du passé. Et par une enquête de détective très élaborée, en faisant appel à toutes sortes de technologies, en faisant appel à toutes sortes de spécialités, nous pénétrons de mieux en mieux dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques. Et nous les voyons vivre. Bien sûr, nous n'avons pas encore trouvé le système qui nous permettra de récupérer des images qui sont peut-être satellisées, qui nous permettront de voir comment vivaient les hommes d'Ototavel ou comment vivaient les hommes qui ont été capables d'allumer des foyers à Teramata.
Alors, ultime question. Non, pas ultime. Il en reste encore quelques-unes. On va voir si on a le temps. La domestication du feu apparaît en différents endroits du globe que vous avez cité. À peu près simultanément.
400 000 ans à peu près, oui.
Est-ce parce que cette technique née à tel ou tel endroit s'est répandue, ou plutôt de façon spontanée
Penser que c'est spontané, parce que j'imagine mal que le chasseur d'éléphants de Teramata ait pu rencontrer les chasseurs de Choukoutien en Chine. À la même temps, il n'avait pas la possibilité. Donc des hommes qui n'avaient pas la possibilité de se rencontrer, pas la possibilité de se copier, de s'imiter, de communiquer, ont souvent inventé les mêmes choses au même moment. Ça correspond à un développement de la cognition de l'être humain. C'est la même chose pour l'agriculture. Aux environs de 10 000 ans avant notre ère, dans différentes régions du monde, les hommes ont inventé l'agriculture et l'élevage. Ceci s'est passé en Anatolie ou en Palestine, à Jéricho, ou en Anatolie, à Chataluk, avec la culture du blé, de l'orge, avec la culture des légumineuses, comme les pois chiches, les vesses, ça, c'est avec l'élevage, du mouton et de la chèvre. Mais ça s'est passé aussi en Afrique sud-saharienne, au Tchad, autour d'un très grand lac Tchad, où ils ont cultivé du mil. Ça s'est passé en Thaïlande ou en Chine du Sud, avec la culture du riz, ou à l'élevage du mouton et du cochon. Ça s'est passé en Chine du Nord, à Poix de Xian, avec la culture du millet. Ça s'est passé en Amérique centrale, au Mexique, avec la culture de la pastèque, du piment, du haricot, et surtout du maïs. Et ces hommes qui ont inventé l'agriculture et l'élevage, aux environs de 10 000 ans avant notre ère, n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux, aucun moyen de se rencontrer, aucun moyen de s'imiter. Et ils ont, pour subvenir à leurs besoins, à leur subsistance, ils ont inventé l'agriculture et l'élevage, qui a changé complètement le mode de vie des hommes. Les hommes vivent en société, s'est développée une hiérarchie sociale importante, car quand on a inventé l'agriculture et l'élevage, on doit se sédentariser. On construit une maison. Plusieurs maisons, c'est un village. Et à ce moment-là, il y a des métiers. Il y a le cultivateur, celui qui plante le blé, l'orge ou les légumineuses. Il y a le berger qui garde les moutons ou les chèvres. Et puis il faut un bon ingénieur pour creuser des canaux, pour irriguer les terres cultivées ou les pâturages. Quand s'il n'était pas bon, c'était la disette. Et puis, il y a des métiers. Il faut écraser le blé, donc le meunier, on invente la meule et la molette pour écraser les graines et faire de la farine. Il y a le potier qui invente la poterie, la céramique. On malaxe de l'argile, on la pétrit en forme de bol, de vase, d'assiette, qu'on fait cuire pour conserver les laitages, pour conserver les légumineuses, pour conserver les céréales. Et puis, on a beaucoup de moutons, quoi qu'ils avaient des poils, mais enfin, c'est de la laine ou des poils. Et on invente le filage et le tissage. Et on s'habite plus seulement avec des peaux de bêtes, mais avec des habits confectionnés après le tissage. Mais il faut que tout ça marche. C'est pas facile quand il y a tant de métiers. Donc il faut des chefs. Il apparaissent les rois. Mais un chef, il faut qu'il soit obéi. Donc il faut des soldats. Et puis ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'il pleuve au bon moment pour irriguer les pâturages et les terres cultivées. Donc il faut des prêtres pour parler avec les dieux.
Et voilà une organisation sociale qui a perduré peut-être plus longtemps qu'on ne le croit d'ailleurs.
Ah oui, ça continue. Voilà. Et mais à chaque période d'humanité, il y a un saut. Un saut culturel extraordinaire. Et alors, parmi les feux, c'est l'invention de l'outil, demi-heure et demi d'année. L'invention de la chasse et le charognage. L'invention de la chasse, 1,5 million d'années. L'arrivée de l'homme en Europe, 1,2 million ans. 1,5 million ans. Après, la domestication du feu, c'est l'objet de notre rencontre, 400 000 ans. Mais on peut dire aussi les premières sépultures, la naissance de l'angoisse métaphysique, 100 000 ans. L'invention de l'art, la parure, l'art parital, l'art mobilier, la musique, 35 000 ans. L'invention de l'agriculture et de l'élevage, 10 000 ans. Et puis la métallurgie, c'est 3300 avant notre ère. L'écriture, au Mont Bégo, comme l'écriture cunéiforme de Sumer, entre le Tigre et l'Euphrate, 3300 ans. L'écriture hiéroglyphique égyptienne dans le delta du Nil, 3200 ans. Mais l'écriture idéographique du Mont Bégo, 3300 ans dans les Alpes du Sud. C'est une autre étape extraordinaire de l'aventure humaine. Et aujourd'hui, vous avez les portables. Hein, c'est une aventure extraordinaire. Vous m'avez obligé de l'éteindre. Mais c'est quand même une aventure extraordinaire, car avec un portable, on peut consulter toutes les bibliothèques du monde, toutes les encyclopédies. C'est une nouvelle aventure. Nous rentrons dans une autre nouvelle étape de l'aventure culturelle de l'homme.
Écoutez, je vous propose qu'on en reste là, car les prochaines étapes sont peut-être à la fois fascinantes et plus angoissantes. Car
je suis optimiste.
Vous êtes optimiste ? Est-ce que
on ira toujours plus loin.
Oui, peut-être même en dehors de notre nature, non ? Au-delà de notre nature ?
Il faut qu'il reste en étroite coopération avec la nature, car il ne faut pas oublier que nous sommes formés de vertèbres, mais que nous sommes formés d'acides animés, de protéines, nous sommes construits avec des cellules. Et comme les plantes, comme les arbres que nous voyons ici à travers votre fenêtre, et que nous ferons toujours partie intégrante à la nature. Nous ne pourrons jamais couper les racines qui nous enchaînent au milieu naturel, et nous devons créer, il faut que nos hommes politiques, des fois ils ne comprennent pas trop, mais il faut que nos hommes politiques créent une nouvelle éthique planétaire capable de gérer l'avenir de l'homme.
Mais écoutez, c'est sur ce message d'espoir un petit peu angoissant, car il est adressé aux politiques, cette émission se conclut. Mais c'est très agréable de penser qu'effectivement cette aventure commencée il y a des millions d'années doit et va se poursuivre.
J'invite tous vos lecteurs à lire cet ouvrage publié par Odile Jacob.
Mais c'est ce que je m'apprêtais à faire, monsieur.
Mais je vous laisse faire.
Car précisément, il est bon, dans ces temps quelque peu angoissants, où l'on parle de post-humanisme et autres notions qui nous mettent en dehors même de cette idée d'humanité et d'histoire, de se replonger dans ses lointaines racines pour se dire que certes, si les changements ont été extrêmement profonds et fulgurants depuis notamment la domestication du feu, eh bien, ça nous remet dans cette lignée et après tout, ça donne peut-être du sens à ce qui se déroule encore aujourd'hui sous nos yeux. Je renvoie donc nos auditeurs à l'ouvrage du professeur Henri de Lemley, de la domestication du feu au temps paléolithique, pour découvrir tout ce que nous devons à nos lointains ancêtres, notamment lorsque nous tournons un interrupteur, que nous allumons le chauffage et même la climatisation, puisque nous sommes en été, eh bien, c'est probablement aussi à leur inventivité que nous le devons.
Et c'est un livre édité chez Odile Jacob.
Comme le Pestriza, le site internet, avec la possibilité même de le commander en ligne. Merci beaucoup, professeur. Thank you.